Décryptage.
Sébastien Duhamel.
Bonsoir à tous, bienvenue pour votre décryptage. Plus de deux mois de guerre en Ukraine désormais depuis le 24 février et le lancement de ce que le Kremlin appelle son opération militaire spéciale. On entend, on voit beaucoup de choses. Les informations qui remontent du terrain décrivent de nombreuses exactions commises par l'armée russe. Des accusations de crimes de guerre ont été lancées à Boutcha comme à Irpin, entre autres. Les soldats russes sont également accusés de pillages et autres vols, parfois même surprenants. Mais qui sont finalement les auteurs de ces actes? Ces soldats envoyés au front par Moscou, d'où viennent-ils? Quels sont leurs profils? Nous avons 20 minutes pour tenter de comprendre ça ensemble. Et pour ce décryptage avec nous ce soir en studio, Julien Théron, politiste spécialisé dans les conflits, enseignant à Sciences Po, auteur du livre « Poutine, la stratégie du désordre », coécrit avec Isabelle Mandreau aux éditions Talendier. Bonsoir Julien Théron.
Bonsoir.
Également avec nous ce soir au téléphone, Nicolas Gosset, chercheur Russie-Eurasie à l'Institut Royal de Défense à Bruxelles. Bonsoir Monsieur Gosset.
Bonsoir Monsieur.
Alors pour entrer dans le vif du sujet directement, selon les chiffres dont on dispose et qui sont généralement évoqués, l'armée russe compterait près d'un million d'hommes. On parlera des conscrits plus tard dans cette émission, mais si on peut d'abord s'arrêter sur les militaires de carrière, les professionnels qui composent cette armée, il serait près de 700 000, soldats et officiers compris. Julien Théron, parmi ces hommes, est-ce qu'il est possible de dresser un profil type des soldats russes? Est-ce qu'on a des données déjà sur leur profil?
Alors, vous avez raison de préciser que le chiffre est déjà une matière discutable, en fait. Hein. On parle d'un million, en général, c'est plutôt entre 800 000 et un million, donc on n'est déjà pas complètement sûr. Et il faut bien comprendre que c'est des personnels du ministère de la Défense. Donc ça ne veut pas forcément dire que ce sont des soldats actifs, combattants. Oui. Et justement, il y a un débat scientifique en ce moment pour savoir si, en réalité, des soldats qui sont vraiment capables de combattre, eh bien, si la Russie ne serait pas déjà au bout de ce compte-là, et que le reste, il faut, si vous voulez, des logisticiens, il y a des personnels civils de la défense.
Parce qu'il y a déjà beaucoup de blessés, etc., sur le terrain. Donc quand vous dites est-ce qu'on est déjà au bout des forces russes, c'est ça.
Alors, effectivement, les blessés, si vous voulez, ne représentent pas forcément énormément par rapport à ce million-là, mais par rapport aux soldats combattants, oui, ça commence à représenter un certain nombre, et justement, du fait de l'impossibilité de la Russie d'aligner beaucoup plus de troupes, on pourrait imaginer que comme les Américains en Irak, à un moment, il y a eu ce qu'on appelait le surge, c'est-à-dire un renforcement capacitaire très important, et on a mis des dizaines de milliers de soldats supplémentaires pour établir la sécurité avec les locaux, ce qui d'ailleurs à la fin a un petit peu mieux fonctionné. Et là, la Russie ne le fait pas. Elle ne le fait pas, et justement, elle appelle à des soldats autres. Alors, il y a la question des conscrits, qu'on verra tout à l'heure, mais il y a aussi la question des mercenaires, voire d'étrangers, de mercenaires, je veux dire, de sociétés militaires privées comme les Wagner, mais aussi d'étrangers comme des Syriens ou des Libyens. Donc, on se dit, en fait, elle n'a pas assez de soldats. Il y a un professeur, notamment anglo-saxon, qui pense que la Russie est au bout de ses capacités et qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup plus que à peu près 190-200 000 hommes à mettre en force combattante, exclure évidemment certaines divisions qu'on laisse en Extrême-Orient ou aux alentours de Moscou. Je rajouterai aussi qu'on s'aperçoit non seulement qu'il y a des conscrits en Ukraine, alors au début, il était dit non, et puis finalement...
Au début, Moscou déniait et disait
absolument,
non.
Et finalement, ils ont été obligés de le reconnaître. Et deuxièmement, on s'aperçoit aussi qu'il y a ce qu'on appelle la Rosgvardia, qui est une garde nationale en fait en Russie, qui est aussi déployée dans les territoires en fait occupés, ukrainiens occupés par la Russie.
Qui est censée assurer le contrôle des villes conquises, normalement.
Voilà, voilà. Et qui sont des troupes censées assurer le contrôle de la Russie elle-même. Il y a une loi qui est passée pour dire la Rosgvardia aura en charge ça, et d'ailleurs ils ont le droit de tirer sur les Russes s'ils considèrent qu'il y a un risque à la sécurité nationale, ce qui est des concepts extrêmement flous. Donc eux maintenant sont aussi déployés en Ukraine. Alors c'est une force moins importante qui constitue à peu près 300 000 personnes et qui est sous les ordres de l'ancien garde du corps personnel de Vladimir Poutine. Donc on comprend bien de cette espèce d'immixtion entre le personnage et l'État dans ces régimes autoritaires. Peut-être dernier point sur cette armée-là, elle a une réforme, en fait, depuis 2008.
2008, c'est ça.
Absolument, une réforme qui a été très importante.
Le matériel et les hommes aussi, c'est ça.
Absolument. Et il y a eu beaucoup d'efforts, notamment en termes de lutte contre l'alcoolémie. Alors, il y a eu d'autres problèmes qui ont émergé depuis, comme l'utilisation des téléphones portables, par exemple. Et alors, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, on peut localiser avec beaucoup d'applications, comme vous le savez. Et on s'est aperçu, par exemple, sur certains théâtres, alors c'est arrivé dans le Donbass ou aussi en Syrie, on s'est aperçu en fait qu'il y avait des soldats russes là où ils n'étaient pas censés être. Mmh. Et du coup, ça a mis un peu dans l'embarras. Donc, ils ont essayé quand même de faire progresser tout ça. Et cette armée-là, en réalité, effectivement, On peut la diviser en quatre. Il y a les officiers, qui constituent un corps souvent d'élite, traditionnel, même depuis l'époque tsariste. Mmh. Il y a les sous-officiers, qui sont assez déconnectés des officiers, en fait. Hein. Il y a un peu un fossé entre les deux. Et puis, il y a des militaires contractuels. Alors, ça existe dans beaucoup d'armées, y compris l'armée française. Hein. Et ces trois types-là constituent beaucoup les corps d'élite, hein, les spetsnaz, les forces spéciales, les troupes aéroportées, ce genre de choses. Et puis, il y a les conscrits. Et en fait, les conscrits, ils sont un peu séparés de cette armée de métiers.
On y viendra, oui, justement, voilà. Sur les conscrits, on y viendra plus tard. Nicolas Gosset, sur le profil des soldats qui sont envoyés au front en Ukraine, on a des données. Est-ce qu'on peut établir un profil type, finalement, ou est-ce que c'est clairement impossible pour nous, vu d'ici ?
Un profil type, c'est un peu compliqué, parce qu'évidemment, l'armée russe est à l'image de la société, elle est extrêmement diverse, mais il y a quand même des données intéressantes qui sont sorties, notamment du travail d'un chercheur indépendant qui conduit des travaux vraiment intéressants pour le Wilson Center. Il s'appelle Pamil Galiev, et lui, il a travaillé en fait sur les rubriques nécrologiques dans la presse locale et le profil des blessés ramenés du front ukrainien, notamment à Rostov-na-Donu. Et l'une des thèses qu'il a développées, c'est que, basé sur le patronyme de ces individus, il y aurait une surreprésentation des minorités ethniques et conventionnelles. Donc, évidemment,
un peu un héritage de l'Union soviétique, finalement.
Oui, mais dans une forme plus restreinte. Et effectivement, l'armée rouge représentait l'ensemble des composantes de l'Union soviétique. Mais ici, ce qu'il pointe réellement, c'est qu'on a une part de Nord-Caucasiens, de Bouriates, de Yakoutes, de l'ensemble de ces minorités non-slaves de la Fédération de Russie, qui est un État multiethnique et multiconfessionnel, qui sont proportionnellement surreprésentés. Mais il est vrai que son travail a davantage porté sur le profil des conscrits, des appelés, que des professionnels de carrière. Et ce sont des données qui sont relativement parcellaires, pour le coup. On a une autre source d'information fort intéressante, du Mama Kabi, qui a été conduite par Radio Zaboda, donc Radio Liberté Russie, et qui aboutit plus ou moins au même type de conclusion. Ajoutant à cela que, généralement, les composants non slaves de la société de Fédération de Russie sont généralement des ressortissants d'unités régionales ou de républiques qui ont un niveau socio-économique moins élevé que les grandes métropoles de Russie européenne ou de Sibérie centrale, par exemple. Et donc, on a ces doubles conjonctions, à la fois d'une surreprésentation des minorités ethniques et puis davantage aussi de populations qui sont plutôt rurales, plutôt économiquement défavorisées, parce que c'est pour ces populations que le salaire, somme toute modique, des kontratniki est réellement perçu comme avantageux par rapport à la jeunesse des grandes villes de Russie européenne où c'est beaucoup moins attractif.
Je voudrais à présent qu'on revienne sur les horreurs qui nous remontent du terrain, de nombreuses accusations. Et avant d'en parler ensemble, je vous propose d'écouter deux témoignages de civils ukrainiens qui ont été recueillis par nos équipes d'envoyés spéciaux après le retrait des forces russes autour de Kiev.
Ils sont arrivés et ils ont explosé toutes les voitures et un tracteur au bazooka. Il y avait quelqu'un qui faisait cuire son repas sur un feu dehors. Il a jeté une bûche dans le feu et ils l'ont abattu comme ça sans raison. Il devait avoir 70 ans. Quelqu'un d'autre est sorti d'un abri souterrain et lui ont tiré dans la jambe et ils l'ont laissé par terre. Tout ça, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu un homme entrer dans son garage. Ils ont tiré dedans au bazooka.
J'ai vu la même chose se produire dans des villages différents, systématiquement. À Vorzel, les soldats venaient de Buryatie. À Gastomel, ils venaient de Krasnoyarsk. J'ai vu des parachutistes de Pskov, des gens qui vivent aux quatre coins de la Russie. Donc, je ne vois pas comment ça peut être des coïncidences. Dans tous ces villages, ils ont fait les mêmes choses. Ils ont violé et tué des civils. Ils les privaient de nourriture. Ils les torturaient.
Voilà les témoignages recueillis par Vincent Souriau et Cléa Broderst. Le premier témoignage à Boutcha, le second à Vorzel. Julien Théron, ces gens-là nous parlaient à l'instant de tortures, de viols commis par des soldats russes qui viennent des quatre coins de la Russie. Est-ce qu'il y a une vraie culture de la violence au sein de l'armée russe, comme on l'entend parfois, ou alors il s'agirait plutôt ici de soldats qui agissent finalement de leur propre chef, un peu comme ils l'entendent sur le terrain?
Alors, je crois qu'il faut distinguer l'encadrement des soldats eux-mêmes. Hein, et de ce point de vue-là, il y a ce qu'on appelle la dedovchina, c'est-à-dire du bizutage, en fait. On pourrait traduire ça par du bizutage, qui est des modes d'encadrement hyper violents, des conscrits notamment, qui est un processus qu'on s'aperçoit dans un certain nombre d'États déjà, qui sont des États autocratiques. Hein, ça s'observe souvent dans les États autocratiques, ce genre de pratique. C'est-à-dire une manière de conditionner, en fait, ceux qui vont être responsables de l'ordre, pour que eux-mêmes derrière ils puissent pratiquer une certaine violence sur les gens qui sont les réceptacles de l'ordre, si je puis dire. Donc effectivement, on peut imaginer qu'il y a un transfert comme ça de la violence pour les transcrits, pour les conscrits. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question de ces kontratniki dont on parlait tout à l'heure, de gens qui seraient aussi des cadres de l'armée. Mmh. Et de ce point de vue-là, moi j'ai observé quelques éléments, parce que vous savez qu'en fait souvent les mercenaires Wagner, par exemple, sont souvent des gens qui ont opéré au sein des forces spéciales ou du renseignement militaire russe, le GRU, et qui, en fait, sortent de cette structure pour entrer dans une structure militaire privée qui, d'ailleurs, est illégale en Russie. Hein. C'est illégal, les sociétés militaires privées, dans la loi russe, mais enfin, officiellement, elle n'existe pas. Donc,
c'est illégal, ça n'existe pas, mais voilà. On sait que dans les faits, officieusement, voilà. c'est constaté, donc, documenté.
Donc ces forces spéciales, ces soldats-là, font des allers-retours dans l'armée et dans les Wagner. Et je vous dis des allers-retours parce que j'ai vu des photos de certains qui portaient des patchs qui disaient que c'était des ISIS hunters, donc des chasseurs de l'État contre l'État islamique, comprendre, et qui avaient probablement opéré au Moyen-Orient ou en Libye, mais probablement plutôt en Syrie, ce qui veut dire qu'ils auraient opéré soit au sein des forces spéciales, voire au sein d'une société militaire privée dédiée spécialement à la Syrie, et qui seraient revenus en fait dans les forces spéciales russes en Ukraine. Enfin, il y a une espèce de dialogue comme ça qui est complètement flou, naturellement. Et pourquoi c'est important pour comprendre cette question des violences? Parce que officiellement, même quand vous êtes dans un groupe, dans une société militaire privée ou dans un groupe armé non étatique, en fait, le droit international s'applique à vous. Hein. C'est pas juste, bon, je suis pas dans l'armée, donc je peux faire ce que je veux. Mais enfin, évidemment, c'est beaucoup plus flou. Ils sont pas comptables,
les limites,
on n'a pas de rapport.
Les limites sont moins claires.
Il y a pas de transparence de l'action. Donc, vous comprenez bien que cette espèce d'aller-retour nourrit aussi la possibilité, en fait, d'avoir des pratiques qui sont pas des pratiques militaires, ce serait trop d'honneur, mais qui sont des pratiques, en fait, de violence non militaire contre les civils, comme on les entendait tout à l'heure. In fine, je dirais aussi que la réforme constitutionnelle d'il y a 2 ans en Russie a, c'était déjà le cas, mais ils l'ont redit, que la loi russe était supérieure au droit international et qu'il n'y avait rien au-dessus de la loi russe. C'est-à-dire, en gros, il faut comprendre que si vous imaginez qu'il y ait un droit international humanitaire, en l'occurrence, hein, ce qu'on appelle le droit dans la guerre, c'est-à-dire ce qu'on a le droit de faire, les armes qu'on a le droit d'utiliser, eh bien, de ce point de vue-là, l'armée russe considère qu'elle n'est pas du tout comptable devant le droit international. Donc on comprend bien que, si vous voulez, à la fois de manière horizontale et de manière verticale, y compris avec... les responsables, vous savez qu'il y a le général Dvornikov qui a été nommé, qu'on appelle le boucher de Syrie, qui a été nommé donc dans l'est de l'Ukraine. Alors c'est pas lui qui était responsable à Boutcha, hein, mais lui, on lui met à son compte, par exemple, juste quand il arrive au pouvoir, le bombardement de la gare de Kramatorsk, vous savez, où il y a des civils qui voulaient fuir en train, et donc l'artillerie a bombardé la gare pleine de civils qui attendaient. Donc vous voyez qu'on comprend bien que à tous les échelons verticaux et même dans les pratiques horizontales, effectivement, il y a cette espèce d'appétence pour la violence et puis aussi un déni complet d'une régulation de la guerre, en fait.
Nicolas Gosset, vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre? Cette violence, c'est un peu lié à la structure même de l'armée russe. Il y a de ces différentes composantes externes, même parfois. Et on parle aussi souvent du bizutage. Est-ce que ça peut faire partie aussi de cette culture de la violence au sein de l'armée russe?
Oui, mais comme Julien Théron le mentionnait, d'ailleurs, il a fait un inventaire très intéressant de nombreux problèmes qui se posent. Alors, la dedovchina, c'est connu depuis l'Armée Rouge, mais effectivement, même si les réformes Serdioukov de 2007-2008 ont voulu s'attaquer à cette pratique comme un enjeu central, c'est dans ce cadre-là, notamment, qu'on a réduit la durée de la conscription de 2 ans à 1 an, parce qu'on pensait ainsi supprimer... l'oppression des pères de deuxième année sur les premières années. Ça n'a pas suffi à réduire les problèmes endémiques et de violence à l'intérieur des forces armées. Alors, il y avait eu au milieu des années 2000 des cas absolument horrifiques qui avaient défrayé la chronique, mais encore très récemment, en 2019, il y a eu un cas qui a véritablement secoué l'opinion publique russe, avec un jeune appelé dans la région de Chita qui a tiré sur des collègues de caserne. Il y a eu 8 morts, et dans son jugement, qui avait été assez largement médiatisé, il avait évoqué les mauvais traitements qu'il subissait de manière répétée, notamment des pratiques de viol, et il avait amené ça comme une forme d'explication à son crime, quoi. Mais donc, c'est pour dire à quel point ce type de pratiques, elles sont vraiment endémiques, et elles s'exercent de manière très frappante aussi dans le chef des officiers sur les nouvelles recrues. Et donc, effectivement, il est très compliqué quand ce sont les officiers qui sont à la source même de vos mauvais traitements, mais il est très difficile de sortir de ce cercle vicieux. Mmh. Un autre point essentiel qu'a fait Julien Théron, c'est effectivement, si vous regardez la formation des officiers de carrière et des jeunes soldats dans l'armée française, dans l'armée belge, les aspects éthiques, les aspects de droit des conflits armés, ils occupent une partie importante de leur formation. Et c'est quelque chose qui est complètement exempt des curriculums en Russie. Alors ne parlons même pas du fait quand on a des jeunes appelés qui, dès le troisième mois de leur conscription, peuvent être... Alors la loi russe dit qu'ils sont libres de signer un contrat, mais en fait souvent il y a des pratiques d'imposition, des pressions pour qu'ils signent un contrat et deviennent ainsi professionnels, notamment des pressions des pères, hein, pour ne pas apparaître comme un lâche devant vos collègues, parce qu'il y a un culte de la masculinité, de la virilité, et donc tout ça est très oppressif. Mais donc vous avez des gens qui arrivent sur le terrain opérationnel et qui n'ont pas le minimum de base. Et alors souvent, ce qu'il faut dire aussi, au-delà de la culture de la violence, on est dans une armée russe qui aujourd'hui est consolidé dans cette gange de patriotisme, de militarisme, de déshumanisation des Ukrainiens dans des langages qui sont particulièrement forts, qui sont portés par les plus hautes instances de l'État, où la population ukrainienne est présentée comme nazie, comme finalement n'ayant pas droit à la reconnaissance et au principe minimum d'humanité. Et je pense qu'il faut se rappeler ce que Hannah Arendt disait, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Et donc on a vraiment des jeunes recrues qui sont en manque de repères, qui sont dans des schémas de violence et qui reproduisent ça parce qu'il y a des autorités hiérarchiques qui laissent faire ou qui même sont violentes à l'égard de leurs recrues.
Et justement, des faits un peu surprenants qu'on constate sur le terrain, on parle beaucoup de pillages, des magasins alimentaires qui ont été mis à sac, mais les soldats russes repartent aussi avec des butins encore plus surprenants. Des machines à laver, des poêles, des mixeurs. Un article de CNN aujourd'hui nous apprend des vols de matériel agricole jusqu'à des moissonneuses-batteuses. Julien Théron, ça répond finalement à des vrais besoins des soldats russes, ou est-ce que c'est le moyen de se rémunérer, ou c'est une vraie politique de guerre finalement, c'est ces vols sur le terrain?
Je pense qu'il y a un ensemble. L'autorité de l'État russe dit les Ukrainiens n'existent pas, l'Ukraine n'existe pas. Donc il y a une déshumanisation des Ukrainiens à la tête de l'État. Ensuite, il y a aussi une réalité en Russie, c'est qu'au-delà des grandes villes européennes, comme on le disait, il y a des questions socio-économiques extrêmes. Le poutinisme est un système socio-économique qui ne fonctionne pas du tout. Donc il y a de la grande pauvreté. Et puis enfin, il y a cette pratique qu'on appelait avant dans les armées, dans les armées européennes, il y a très longtemps, se servir sur la bête. C'est-à-dire qu'on va profiter des populations civiles de toutes les manières, par la violence et par le vol.
On arrive déjà à la fin, malheureusement, de ce décryptage, sujet passionnant. Merci à Julien Théron d'avoir été avec nous. Merci à Nicolas Gosset également, qui nous répondait depuis Bruxelles. Julien Théron, je rappelle le nom de votre livre, bien sûr, Poutine, la stratégie du désordre. C'est coécrit avec Isabelle Mandreau, c'est à lire aux éditions Talendier. Merci à tous d'écouter la radio du Monde. Restez avec nous, dans 30 secondes, c'est Anne Corpé et le débat du jour.